Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, donc des contes, oui, des histoires, toutes sortes d'histoires, des petites, longues et même des sagas. Parce qu'aujourd'hui, bien, c'est une saga. Bon, un bout de saga, parce que les sagas sont interminables. Et aujourd'hui, c'est une saga irlandaise. Diarmuid et Garani. Une magnifique histoire, traduite par Lady Gregory du gaélique ancien. Que dire, Diarmuid était fils de Don, fils de Dubne, du clan des Fianna. Et c'est un guerrier, bon, il a eu tout un tas de mésaventures, on va dire, dans sa jeunesse. Mais quand il a atteint sa pleine force, eh bien, il a sa place parmi les guerriers Fianna. Toutes les femmes l'aimaient. Et il accomplit des grands exploits. En combattant les ennemis des Fianna et de l'Irlande. Même, tenez-vous bien, il combattit une fois un taureau sauvage durant 7 jours et 7 nuits au sommet de la montagne du bonheur. Mais, en guise de prologue, apprenons maintenant ce qui s'est passé entre Diarmuid et la fille du roi du pays sous la vague. Par une neigeuse nuit d'hiver, les Fianna étaient partis à la chasse. Ils revinrent peu avant minuit. Et vers minuit, ils entendirent frapper à leur porte. Et une femme entra, très sauvage et très laide, et les cheveux lui tombant sur les talons. Elle s'avança et alla à l'endroit où Finn, le chef des Fianna, était couché. Et elle lui demanda de la laisser se mettre sous l'ourlet de son vêtement. Mais quand il la vit si étrange et si laide et si sauvage d'apparence, il la repoussa. Elle jeta alors un grand cri et elle alla trouver Ochin. Elle lui demanda de la laisser se mettre sous l'ourlet de son vêtement. Mais Ochin refusa de même. Elle jeta alors un autre grand cri. Elle alla trouver Diarmuid. « Laisse-moi me mettre sous l'ourlet de ton vêtement. » Diarmuid la regarda et lui dit « Tu as l'air étrange et sauvage et laide et tes cheveux te tombent sur les talons. Mais viens-t'en malgré tout. » Elle se mit donc sous l'ourlet de son vêtement. « Oh Diarmuid !» dit-elle alors. « J'ai voyagé 7 ans durant sur la mer et sur l'océan, et de tout ce temps, je n'ai eu d'abri aucune nuit avant cette nuit. Laisse-moi aller vers la chaleur du feu maintenant. » Diarmuid l'amena près du feu, et tous les Fianna qui étaient assis là s'en allèrent, la voyant si laide et si horrible à regarder. Elle n'avait pas été longtemps auprès du feu qu'elle dit « Laisse-moi entrer sous la chaleur des couvertures avec toi maintenant. » Tu en demandes de trop, dit Diarmuid. D'abord, c'est de te mettre sous l'ourlet de mon vêtement que tu as demandé, ensuite d'aller près du feu, et maintenant c'est sous les couvertures du lit avec moi que tu veux être. Mais tu peux venir malgré tout, ajouta-t-il. Elle se mit donc sous la couverture et il en retourna un pli entre eux. Un peu de temps passa, et elle ne tarda pas à se retourner, à la regarder. Et que vit-il, là, sinon une superbe jeune femme endormie à son côté. Il appela ses compagnons, et il leur dit, « N'est-ce pas là la plus belle femme qu'on vit jamais ?»« Sans aucun doute, » dira-t-il. Et ils la recouvrirent sans la réveiller. Un peu plus tard dans la nuit, Elle remua et elle dit « Es-tu éveillé, Djarmoul ?»«
Je le suis. »
« Où voudrais-tu voir construire la plus belle maison qui fut jamais construite ?» demanda-t-elle.
« Là-haut, sur le versant de la colline, s'il m'était donné de choisir, » répondit Djarmoul. Et là-dessus, il s'endormit. Le matin, deux des Fianna entrèrent dans la chambre et ils dirent qu'ils venaient de voir sur la colline une grande maison, là où il n'y en avait pas eu auparavant.
« Lève-toi, Djarmoul, » dit alors l'étrange femme. « Ne reste pas couché plus longtemps, mais monte à la maison et sors dès maintenant pour la voir. » Il sortit et vit la grande maison toute prête. Alors il dit « Je vais y aller si tu veux bien venir avec moi. »«
Je viendrai, » dit-elle, « si tu me promets de ne pas me dire par trois fois dans quel état j'étais quand je suis venu à toi. »«
Jamais je ne te le dirai. » dit Djarmoul.
Ils montèrent donc à la maison et elle était prête pour eux avec des vivres, des serviteurs et tout ce qu'ils pouvaient souhaiter. Ils restèrent là durant trois jours. Et quand les trois jours furent écoulés, elle dit « Tu commences à être chagrin parce que tu es loin de tes compagnons. »
« Je ne suis pas du tout chagrin, » dit Djarmoul.
« Le mieux pour toi est d'aller les retrouver. » Et la nourriture et la boisson n'en seront pas pires pour autant quand tu reviendras.
Qui prendra soin de ma femelle, de l'évrier et de ses trois chiots si je m'en vais ? Dit Djarmoul.
Tu n'as rien à craindre pour eux, dit-elle.
Quand il eut entendu cela, il prit congé d'elle et il s'en retourna auprès des Fianna. Et ils lui firent grand accueil. Néanmoins, il n'était au fond pas très content, mais quelque peu envieux de Djarmoul, à cause de cette superbe maison qu'il avait eue et de l'amour que lui portait la femme qu'eux-mêmes avaient repoussée. Quant à elle, elle se trouvait en dehors de la maison après le départ de Djarmoul, lorsqu'elle vit venir à elle Finn, fils de Kumhal. Elle lui souhaita la bienvenue.
« Tu m'en veux, reine ? » demanda-t-il.
« Point du tout, » dit-elle. « Entre et je te trouverai un verre de vin. »«
J'entrerai si tu fais droit à ma requête, » dit Finn.
« Venant de toi, quelle est la requête à laquelle je pourrais ne pas faire droit ?»«
Voici ce que je demande. »
L'un des chiots de la femelle de l'évrier de Djarmoul.
« Ce n'est pas demander grand-chose. Tu peux emporter celui de ton choix. »
Ainsi donc, il obtint le chiot et l'emporta. À tombée de la nuit, Djarmoul revint au logis et la chienne vint au-devant de lui à la porte et elle poussa un aboi quand elle le vit. Il chercha des yeux les chiots, l'un d'eux avait disparu. Il fut pris de colère et dit à la femme « Si tu t'étais rappelé dans quel état tu étais quand je t'ai accueilli, l'air étrange, sauvage, laide, avec tes cheveux qui pendaient sur les talons, tu n'aurais pas laissé emporter un de mes chiots.
« Tu n'aurais pas dû dire ça, Djarmoul, » dit-elle.
« Je te demande pardon de l'avoir dit, » dit Djarmoul. Et voilà qu'ils se pardonnèrent l'un l'autre et passèrent la nuit dans la maison.
Le lendemain, Djarmoul alla retrouver de nouveau ses compagnons et la femme resta à la maison. Et au bout d'un moment, elle vit Ochin qui venait vers elle.
Elle lui souhaita la bienvenue, lui offrit d'entrer dans la maison et il lui répondit qu'il entrerait si elle faisait droit à sa requête. Et ce qu'il demanda, c'était un autre chiot de la femelle de l'évrier. Elle le lui donna et il s'en fut en emportant le chiot. Mais quand Djarmoul revint cette nuit-là, la chienne vint à sa rencontre et aboya deux fois et il comprit qu'un autre des chiots avait disparu, et il dit à la chienne, en présence de sa femme, si elle s'était rappelée dans quel état elle était lorsqu'elle est venue à moi, l'air étrange, sauvage, laide, les cheveux pendant jusqu'au talon, elle n'aurait pas laissé emporter ton chiot.
Le lendemain, il alla de nouveau retrouver les Fianna, et quand il fut parti, la femme vit Keut venir vers elle. Et il ne voulut entrer dans la maison pour qu'elle lui donnât à boire que lorsqu'elle lui eut promis, comme aux autres, l'un des chiots. Et quand Djarmoul rentra ce soir-là, la chienne vint à sa rencontre et poussa trois abois, les plus terribles qu'on n'entendit jamais.
Alors il fut pris d'une grande colère quand il vit que le dernier chiot avait disparu et il dit, pour la troisième fois, « Si cette femme se rappelait dans quel état elle était lorsque je l'ai trouvée, l'air étrange, sauvage, laide, avec ses cheveux qui pendaient jusque sur ses talons, elle n'aurait pas laissé partir le chiot. »
Oh, Diarmoud, que dis-tu là ? Aussitôt, il lui demanda pardon, et il pensa entrer dans la maison. Mais la maison disparut, et la femme aussi, à l'instant même.
Et il se réveilla le lendemain sur le sol nu. Il fut pénétré alors d'une grande peine. Et il déclara qu'il chercherait la femme en tout lieu jusqu'à ce qu'il l'eût retrouvée. Il partit donc par les vallées désertes. Et la première chose qu'il vit fut la femelle de lévrier qui gisait morte. Il la mit sur son épaule, ne voulant pas la laisser à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Et au bout d'un temps, il rencontra un vacher. Et il lui demanda s'il avait vu une femme aller son chemin. « J'ai vu une femme hier matin de bonne heure. Elle marchait dur, » dit le vacher. « Par où allait-elle ? » dit Diarmoud. « Elle descendait par ce sentier là-dessous vers le rivage. Et après ça, je ne l'ai plus revue. » Diarmoud suivit le sentier qu'elle avait pris jusqu'au rivage. Et là, il vit un bateau. Alors il s'appuya sur la hampe de sa lance et fit un bond léger qui l'amena sur le bateau. Et le bateau partit et continua sa route jusqu'à ce qu'il atteignît un rivage. Et alors Diarmoud aborda, et comme il était un peu fatigué, il s'étendit sur la pente d'une colline et s'endormit. Mais quand il s'éveilla, il n'y avait plus de bateau en vue. « Je me suis mis dans un mauvais pas, se dit-il, car je ne vois pas comment me tirer de là. » Mais au bout d'un temps, il vit venir un bateau dans lequel ramait un homme. Alors il descendit au rivage, monta dans le bateau, toujours portant la chienne sur son épaule. Et le bateau s'en fut au large. Après quoi, il commença à s'enfoncer dans la mer. Et sous les eaux, Diarmoud se trouva dans une plaine. Et il se mit à marcher. Et il ne tarda pas à voir à terre une goutte de sang. Il la ramassa et la mit sur un linge. « C'est peut-être la chienne qui l'a perdue, » se dit-il. Au bout d'un temps, il trouva une autre goutte de sang, puis une troisième. Il les mit sur le linge. Et après cela, il vit une femme qui cueillait des roseaux, comme si elle avait perdu l'esprit. Il alla à elle et lui demanda si elle avait des nouvelles à lui donner. « Je ne peux pas te les donner avant d'avoir cueilli les roseaux. Donne-les-moi tout en cueillant. » « Je suis très pressé. Dans quel pays sommes-nous ? Nous sommes au pays sous la vague. Et à quoi serviront les roseaux une fois cueillis ? La fille du roi du pays sous la vague est revenue. Et elle est restée sous un enchantement 7 ans durant. Et à présent, elle est malade. Et tous les médecins sont rassemblés autour d'elle et aucun d'eux ne peut lui faire le moindre bien. Elle trouve qu'un lit de roseaux est ce qu'il y a de plus sain pour elle. » « Veux-tu me montrer où est la fille du roi ?» demanda Diarmoud. « Oui, » dit la femme. « Je te mettrai dans la gerbe de roseaux, et je mettrai les roseaux par-dessous et par-dessus toi, et je te porterai sur mon dos jusqu'à la fille du roi.
Oh, »« C'est là une chose que tu ne saurais faire, » dit Diarmoud.
Mais elle mit les roseaux tout autour de lui, et hop, elle l'attrapa et le jucha sur son dos. Et ils marchèrent. Et ils montèrent des escaliers. Et quand il eut atteint la chambre, elle défit la gerbe. Aussitôt, la fille du roi du pays sous la vague, le voyant, lui dit « Oh, viens ici à moi !» Et Diarmoud alla à elle. Et ils se prirent tous les deux les mains dans la joie de leur retrouvaille.
Les 3/4 de mon mal m'ont quitté à présent. Mais je ne suis pas encore bien et je ne le serai jamais plus, car chaque fois que j'ai pensé à toi pendant mon voyage, Diarmoud, j'ai perdu une goutte de sang de mon cœur.
« J'ai ces 3 gouttes ici sur le linge, » dit Diarmoud. « Prends-les dans un breuvage, tu seras guéri. » Elles ne pourront rien pour moi. Dès lors que je n'ai pas la seule chose au monde dont j'ai besoin et que je n'aurai jamais.
Quelle est-elle ?
C'est une chose que tu n'obtiendras pas, ni personne au monde, car il y a longtemps qu'on cherche en vain à la voir.
Mais si elle est quelque part dans les bornes de l'univers, je l'aurai, dit Yarmouk.
C'est trois gorgées de la coupe du roi de Magan Yukanui, la plaine prodigieuse. Et jamais nul ne l'a eue, ni ne l'aura.
Dis-moi où se trouve cette coupe, dit Yarmouk, car il n'y a pas assez d'hommes dans les bornes de l'univers pour m'empêcher de la voir.
Ce pays-là n'est pas loin de la frontière du pays de mon père. Mais il y a une petite rivière entre eux, et tu ferais voile sur cette rivière en ayant le vent en poupe pendant un an et un jour avant d'atteindre la plaine prodigieuse.
Yarmouk partit alors, et il atteignit la petite rivière, et il marcha un bon bout de temps le long de sa rive sans trouver moyen de la traverser. Mais à la fin, il vit un homme roux, de petite taille, qui se tenait au milieu de la rivière. « Tu es en peine, dit Yarmouk, petit-fils de Dubn, mais viens ici et mets ton pied dans la paume de ma main, je te porterai sur l'autre rive. »
Yarmouk fit ce que l'homme roux lui disait, et il mit le pied dans la paume de sa main, et l'homme roux le porta de l'autre côté de la rivière.
« C'est après le roi de la plaine prodigieuse que tu en as, dit l'homme roux. Tu veux lui enlever sa coupe ? Eh bien, je viens avec toi. »
Ils traversèrent l'immense plaine prodigieuse, plate comme une assiette sans un mont ni rien à l'horizon, sauf le fort du roi. Ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils parvinssent au fort du roi. Et Yarmouk, là, cria qu'il fallait lui envoyer la coupe, ou sinon des champions pour le combattre. Ce n'est pas la coupe qui lui fut envoyée, mais 2 fois 800 guerriers. Et au bout de 3 heures, il n'en resta plus un seul pour lui tenir tête. Alors 2 fois 900 guerriers de meilleure trempe furent envoyés à son encontre. Et au bout de 4 heures, il n'en resta plus un seul pour lui tenir tête. Alors, le roi lui-même sortit. Il se tint devant la grande porte et il dit « D'où vient l'homme qui a porté la dévastation dans mon royaume ?»«
Je vais te le dire. Je suis Yarmouk, un Fianna d'Irlande.
C'est dommage que tu n'aies pas envoyé un messager pour me dire cela. » Je n'aurais pas gaspillé mes hommes en les lançant contre toi, car 7 ans avant ta naissance, il a été prédit que tu viendrais les anéantir. Et que demandes-tu à présent ?
La coupe de guérison donnée de ta propre main, dit Yarmouk.
Nul ne l'a jamais reçue de moi avant toi, dit le roi. Mais je ne ferai pas difficulté pour te la donner, quelle est ou non vertu de guérison.
Le roi de la plaine prodigieuse donna alors la coupe à Yarmouk, après quoi ils se séparèrent et Yarmouk alla son chemin jusqu'à ce qu'il atteignît la rivière. Et il songea alors à l'homme roux, auquel il n'avait pas accordé une pensée pendant qu'il était chez le roi. Mais l'homme était là, devant lui, dans la rivière, et Yarmouk mit son pied dans la paume de sa main et il le transporta de l'autre côté de la rivière.
« Je sais où tu vas, Yarmouk, dit-il. « Tu vas guérir la fille du roi du pays sous la vague à laquelle tu as donné ton amour. Et c'est à un puits dont je te donnerai le signalement que tu dois aller puiser l'eau pour l'emporter avec toi. Et quand tu arriveras auprès de la femme, tu mettras cette eau dans la coupe et avec elle une des gouttes de sang et elle boira. Et tu feras de même avec la seconde goutte et la troisième. Et cette fois, le mal la quittera. » Mais il y a autre chose qui partira du même coup. C'est l'amour que tu lui portes.
Oh, dit Yarmouk, cela ne s'en ira pas de moi.
Si, dit l'homme, et il vaudra mieux pour toi ne pas en faire secret, car elle saura, et le roi saura que tu ne te soucies pas plus d'elle dorénavant que de n'importe quelle autre femme. Et le roi du pays sous la vague viendra à toi et t'offrira de grandes richesses pour avoir guéri sa fille, mais n'accepte rien de lui, si ce n'est un navire pour te ramener en Irlande. Sais-tu qui je suis, moi-même ? Non. Je suis le messager d'au-delà du monde. Et je suis venu à toi, parce que je sais que ton cœur est bon. Ainsi donc, Diarmuid fit ce que l'homme lui avait dit, et il apporta à la femme l'eau, et la coupe, et les gouttes de sang, et elle les but, et à la troisième goutte, elle fut guérie. La musique retentit, alors de toutes parts, et les lamentations cessèrent, parce que la fille du roi était guérie. Mais pas plus tôt fut-elle guérie que l'amour que Diarmuid avait pour elle le quitta et il se détourna d'elle. « Oh, Diarmuid, ton amour s'est éloigné de moi, » dit-elle. En effet. Et Diarmuid, refusant toute récompense, ne voulut pas s'attarder. Il demanda un navire pour le ramener en Irlande, à Finn et au Fianna. Et quand il les rejoignit, il fut accueilli à grande joie. Diarmuid était de retour et la fabuleuse saga de Diarmuid et Garani allait pouvoir commencer. Mais ça, ce sera une autre histoire, peut-être pour la semaine prochaine. Diarmuid et Garani, c'est fini pour aujourd'hui. Il y aura peut-être une suite, mais pour l'heure, le temps est fini. C'était Compte à rebours, Marco. Je vous dis ciao, à la semaine prochaine.